le moment meeting, il a dit que même, ils sont plusieurs milliers à Arcelor, et dans la lutte, et sur son film que j'ai vu à l'Odyssée, sur l'écran, il n'y a jamais plus de 100 personnes. Il a dit, dans la lutte, ils sont 50. Donc tous les autres, ils s'attendent bien au chaud chez eux pour savoir ce qui se passe. À Fos-sur-Mer, zéro jour de grève. À Dunkerque, pas une minute. Ils n'ont même pas arrêté une fois le haut fourneau. À Liège non plus, en Allemagne non plus. Il ne faut pas perdre espoir pour lutter, quoi, même si on n'est que 50. Il y a un autre truc pour la personne qui vient d'Espagne. La crise en ce moment, qu'on voit à la télé, c'est par rapport à cette crise qui vient de plus tard, de plus tôt, là, en 2010. Là où Rajo, il y a maintenant des problèmes. Elle vient de là, maintenant, de ce que les...
Le problème, c'est la fin des élections, c'est par rapport...
Ça vient de là, de la construction, là. De ces trucs-là. On ne sait pas encore.
On pourrait dire que tout est mélangé, la corruption au politique. Mais normalement, non. Finalement, l'affaire, c'est par rapport au financement des partis populaires, qui est le parti qui est dans le gouvernement maintenant, c'est le gouvernement de Rajoy. Et donc, ils sont sortis les manuscrits, les trésoriers, les personnes qui gèrent les comptes du parti. Et il se dit qu'ils ont reçu. Une somme en plus de salaire et avec des enveloppes des entreprises privées pendant une vingtaine d'années et il vient de sortir à la lumière.
La tête des États pour nous faire payer la crise des submarines, par exemple, avec 7 milliards de dollars qui se sont évaporés dans les sujets à ce moment-là. Et pour nous rendre plus accommodables à la ratatouille néolibérale. Est-ce que ça n'a pas été fait exprès, ça? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est déjà le canaillier qui est à l'œuvre.
Ça, évidemment, n'était pas exprès, puisque ce sont des décisions. Là, pour le coup, ce sont souvent les mécanismes économiques qui sont des processus totalement aveugles et anonymes. C'est-à-dire, ça se passe et on ne sait pas d'où ça vient. De qui ça procède, mais là, en l'occurrence, ce sont des décisions qui ont été prises par les gouvernants. Quand on prend la décision de sauver une banque qui menace faillite et qu'on décide de la sauver en la nationalisant, c'est-à-dire actif et passif, c'est-à-dire à faire reprendre la dette privée par l'État, c'est-à-dire à la transformer en une dette publique, il est évident que c'est une décision. C'est une décision qui est parfaitement assumée, volontaire de la part du gouvernement. Que, à partir de là, on crée une situation qui rend nécessaire et possible que l'on redouble l'austérité et budgétaire et salariale, ce n'est pas moins évident et c'est tout aussi clairement assumé par le gouvernement. Ils nous le disent à longueur de journée. Les uns disent les caisses sont vides, on ne peut rien y faire. Les autres disent pour essayer de qu'elles soient vides pas davantage, il faut que. Les troisièmes diront si on veut essayer de les remplir un peu plus, il faut que. Mais c'est toujours le même discours qui se tient. Et dans la logique de ce système et des choix de gestion de système qui ont été faits, il n'y a effectivement pas d'alternative. Donc, le problème est très simple, ils nous le disent d'ailleurs eux-mêmes, puisque s'il n'y a pas d'alternative dans la logique de la gestion de ce système et dans ce système même, changeons de logique et changeons de système. Ils le disent eux-mêmes.
Mais ce qui est fou, c'est que les populations ont la patience dans le désastre. C'est ça qui est complètement dingue.
Mais parce que l'alternative, c'est la lutte. Et la lutte, c'est quelque chose de très difficile. Et que, comme l'a dit la camarade, et comme tu viens en train de le dire, je dirais, quand la catastrophe arrive, le réflexe, dans un état de rapport de force déjà dégradé, le réflexe le plus immédiat, c'est le sauf qui peut. C'est-à-dire, on rentre la tête dans les épaules, on couvre le dos, on espère que le coup tombera sur le voisin. Et s'il tombe sur le voisin, on dit ouf. D'accord ? C'est ça. C'est aussi bête que ça. Et en face des Nicolas, il n'y a rien à faire. Il n'y a qu'à laisser fonctionner le marché. Parce que le marché, c'est un système qui fonctionne sur la séparation et la concurrence. Si on gagne à tous les coups, partez de là. La lutte, c'est autre chose. La lutte, ça suppose en effet de commencer à comprendre que ça ne sert à rien de rentrer la tête dans les épaules et de courber le dos en espérant que ce soit le copain qui prenne le coup et pas soi, parce que si c'est le copain qui prend le coup, le prochain coup, au fur et à mesure où les rangs s'éclaircissent, évidemment, les cibles aussi diminuent, le nombre de cibles. Donc, la probabilité que ce soit moi au coup suivant, elle s'accroît chaque fois que c'est le copain d'à côté qui a pris le coup. Au coup précédent. Donc c'est une qualité qui est à courte vue, mais les gens répondent, sauf qu'il peut, c'est aussi à courte vue. Après moi, le déluge. Bon, il me reste trois ans jusqu'à la retraite, ça traînera bien. Et puis il ne me reste plus qu'un an. Et puis, basta, j'y suis. Et puis à partir de là.
Et après, il sucre la retraite. Oui. En Grèce. Et après, il sucre la retraite.
Évidemment. Ça aussi, c'est à courte vue, c'est clair. Mais la lutte, c'est très difficile. C'est parce que ça consiste à dire il faut se solidariser, il faut se mobiliser, il faut d'abord n'être que 50 pour essayer de devenir être 100, etc.
Avec la révolution, c'est dans la tête, on ne veut plus, la gueule, on ne veut plus. La gueule, c'est donc on voit qu'il peuple qui la tête de procès des études.
Donc ceux dans ne peuvent plus gouverner comme avant et ceux dans le ne peuvent plus être gouvernés comme ceux comme avant. Mais ça, c'est des conjonctures très particulières. On y est d'ailleurs. On y est.
Bon, il est en train de. Il y avait une autre intervention.
C'est que ça, c'est-il
que c'est. Il y a une personne devant, une autre derrière, qui attend que vous vous trompez.
On reprendra une question ensuite parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé la parole d'abord.
Bon, je crois que, disons, de mon vivant, je n'ai jamais vu une situation aussi, aussi mauvaise socialement pour les travailleurs ou les classes laborieuses, enfin peu importe le langage, autant de chômeurs, autant de précaires, et pas seulement en France, en Europe, mais dans le monde entier. On entend toutes sortes de discours. Bon, il y a le clown en marinière là, qui resserre du Georges Marchais d'il y a 30 ans en disant « acheter français ». Il y a malheureusement des syndicalistes combatifs tout à fait honnêtes qui s'échignent à démontrer que les dirigeants capitalistes ont pris de mauvaises décisions stratégiques quant à la gestion de leur entreprise et que eux étant à leur place, ils auraient probablement pris des décisions beaucoup plus appropriées. Admettons même que PSA prenne de bonnes décisions si ça se fait au détriment des travailleurs de Volkswagen, la classe ouvrière, les travailleurs n'y ont rien gagné. Des luttes, je pense que... Moi j'ai milité avec quelques personnes ici il y a déjà très longtemps, il y avait 400-500 000 chômeurs, on disait à l'époque, quand il y aura 1 million de chômeurs, ça va péter. Aujourd'hui, plus il y a de chômeurs, moins ça pète. Ou alors, c'est des luttes sporadiques, quasiment désespérées. Enfin, il y a aussi un autre élément, c'est que la chute du mur de Berlin, ça a quand même refroidi, pour employer un euphémisme, beaucoup de gens, en tout cas ceux qui croyaient en la possibilité de faire quelque chose d'autre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si les luttes sociales, les luttes populaires ne sont pas à la hauteur, justement, de la misère, de la pauvreté, de l'exploitation qui a été mise en œuvre par ce capitalisme aujourd'hui, c'est précisément parce que tout le monde est confronté à ça dans la rue. « Ok, tu proposes quoi? Qu'est-ce qu'on fait demain ?» Alors, on achète français, on critique le patron parce que ceci... Et on est là, on dit, ben, je ne sais pas. Honnêtement, il faut dire, on ne sait pas ce qu'on propose demain. Pas plus tard qu'hier soir, j'ai discuté avec quelqu'un à propos de la manif là, de Arcelor. Il me dit, bon, et alors, s'il n'y a plus de bagnole, s'il n'y a plus d'acier à vendre, qu'est-ce qu'on va faire avec... on va faire tourner un fourneau, et qu'est-ce qu'on va faire avec l'acier qu'on aura produit? Voilà des questions extrêmement concrètes. Je veux dire, en fait, je pense que cette chute du mur de Berlin, ça a été la conséquence d'une absence de capacité de proposer une politique alternative au capitalisme. Et on en est toujours là. Et moi, je pense que c'est un gros travail qu'il y a aujourd'hui à faire pour pouvoir répondre à ces gens qui nous disent « Tu proposes quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi ça irait mieux ?» Voilà. Pour résumer un petit peu, c'est difficile en quelques minutes, mais moi, je crois que fondamentalement, c'est ça. On ne sait pas répondre aux gens à cette question. Et du coup, alors, il se développe toutes sortes de choses, d'égoïsme, de quartier, de pays, etc.
Si je peux répondre rapidement avant que vous passiez dessus. Justement, c'est pour ça qu'on a fait cette réunion, c'est quand, parce que la question que se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait. Et justement, ce qu'on voulait montrer aussi, c'est qu'il y a des choses qui se font, et qui se font même, on va dire, plus efficacement qu'à l'époque du mur de Berlin, par exemple. C'est-à-dire, ce qui s'est fait, on va dire, en partant à la base, en partant de zéro, en quelque sorte, la solidarité concrète qui se fait dans un quartier, par exemple en Espagne, pour empêcher une expulsion, la solidarité concrète qui se fait dans un endroit pour reprendre une petite entreprise à quelques-uns ou de se faire virer, ou la solidarité concrète, par exemple, pour reprendre des exemples beaucoup plus proches, si on veut, en France, il y a des collectifs de chômeurs qui se mettent en place. À Nancy, il y a un collectif qui s'appelle Matrice, qui a réussi à imposer à Pôle emploi d'avoir des échanges réguliers, je crois, tous les mois, sur la façon de... Voilà, de façon de gérer le truc. Il y a un collectif à Toulouse qui s'appelle le CREA qui non seulement réquisitionne des logements, loge des personnes qui sont à la rue, c'est-à-dire remplace le travail qui était censé faire un service public, par exemple. Ils le font de façon militante et en plus ils ouvrent les lieux, ils en font des lieux ouverts pour qu'on puisse se servir de local de lutte, de maison des associations, de maison des syndicats, etc. Et après, il y a des trucs qui existent, il y a des façons de faire qui existent, qui marche concrètement, qu'on n'entend jamais. Voilà, donc il y a aussi des... Alors même si on va dire effectivement que c'est marginal, effectivement c'est pas le phénomène, on va dire, qui fait la lune actuellement, mais enfin il y a des choses qui existent, il y a des trucs dont on pourrait s'inspirer, c'est aussi pour ça qu'on, qu'on voulait faire cette réunion ce soir. Il y avait quelques bruits. S'il faut vendre, on n'est pas obligé de vendre n'importe quoi et n'importe comment aussi. Il y a aussi des marges de manœuvre qui sont possibles dans certains cas, parce qu'il y a quand même des... Il y a des besoins dans la société, il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits, et dans certains cas, il y a on peut les satisfaire techniquement possible. C'est peut-être pas rentable le point de vue capitaliste, mais c'est techniquement possible et c'est bénéfique. Donc il y a aussi certains secteurs comme ça de la société où ça pourrait être très bien compris. Et bon, après, c'est pas vrai.
Je demande, remboursé par les dettes privées, d'un point de vue économique, qu'est-ce qui se passerait ou pas? Est-ce que ça a été...
C'est plutôt exceptionnel. Ça a existé. Et d'ailleurs, de manière plutôt intéressante. Hein. C'est-à-dire que ça existe sur une multiple façon. On a bien vu comment le consortium constitué, la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le FMI, a organisé une décote de la dette grecque, une partie importante de la dette grecque de 50%, sans rien quelque part à annuler cette dette. Donc ça peut prendre cette forme-là. On a vu de manière un peu moins récente, mais on vient de remonter très loin dans le temps, en 2001, après 2009 exactement, comment le gouvernement argentin a suspendu le paiement de sa dette jusqu'à obtenir de ses créanciers, là aussi, une remise beaucoup plus importante, de l'ordre de 90% d'une bonne partie de sa dette également. Et on peut procéder de manière plus brutale, c'est-à-dire de manière unilatérale, dire qu'on ne paye plus. Et a priori, le rapport de force n'est pas si défavorable que cela. Parce que on se trouve à ce moment-là dans la situation où une puissance souveraine est reconnue comme telle, évidemment, abuse de sa souveraineté, quelque part, puisqu'elle n'honore pas des contrats qui ont été passés, des contrats qui ont été passés avec les créanciers, mais lesquels créanciers? C'est les créanciers privés qui n'ont immédiatement que très peu de moyens de rétorsion. Un fonds commun de placement, ça n'a pas une armée, ça n'a pas une police, ça n'a pas un système d'espionnage, enfin, même un ministère, etc. Donc ça ne peut pas procéder à des rétorsions violentes à l'égard d'un État. Évidemment, ils ont eux aussi des leviers qui peuvent actionner, à commencer par le fait qu'un État qui se déclare non seulement un État de défaillance, mais volontairement en situation de ne pas honorer ses engagements, n'a plus strictement aucune chance de pouvoir se porter sur le marché financier international et d'y obtenir un quelconque crédit. Donc, si on suit cette voie-là, il faut mesurer aussi toutes les conséquences, et ça suppose, bien évidemment, que on se soit engagé dans une voie, alors qui peut être simplement celle d'un bras de fer, c'est-à-dire, on joue au poker, et évidemment, toute partie de poker implique qu'on sache mieux mentir que l'adversaire, c'est-à-dire de déclarer quelque chose qu'on n'a pas l'intention de faire, pour l'amener sur un terrain où on pourra obtenir de lui, par exemple, des rappels, des abandons, etc. Mais ça peut aussi signifier qu'on a pris une rupture, l'option d'une rupture franche avec toutes les règles capitalistes. Et là, l'antécédent, c'est celui de l'État, le jeune État bolchevique qui a purement et simplement récusé les dettes. Et vous en avez tous entendu parler parce que c'est les fameux emprunts russes, n'est-ce pas? Toutes les bonnes familles françaises allaient croquer, et je connais même une excellente banque sur la place qui rendait les bureaux de ses employés avec des coupons des emprunts russes en question. Ça faisait un beau tableau. Donc, cette alternative, en tout cas, c'est possible. Mais ça suppose qu'on entre dans un rapport de force avec un agent extérieur, et ça suppose aussi et là, un rapport de force interne. Parce que un gouvernement ne prend pas ce genre de décision s'il n'est pas poussé, soutenu, contraint par des mobilisations populaires extrêmement importantes. On ne risque pas de voir brusquement un jour un de nos ministres dire, arriver au Conseil des ministres en disant j'ai une idée cette nuit, et si on.
Il y a quelqu'un derrière de l'autre. Je ne sais pas, je suis à la fin, j'ai deux questions à poser, c'est le fait que si maintenant, par exemple, les citoyens en gros au Sarko avaient allongé du pognon pour sauver justement ces fameux banques, si les citoyens s'étaient mobilisés, avaient commencé à dire non, résistants, qui avaient fallu pousser la résistance, ou du moins en aidant carrément les banques, je pense qu'il y aurait eu vraiment pratiquement autant de morts. De dizaines de millions qui ont été allongés pour la banque. Alors je pense que maintenant, le cas de capital, il est certain qu'il y a une armée qui a certainement une politique qui va en travers différents services et des gestions qui sont bien là pour nous passer les coups. Et surtout pour nous toutes les solidarités, par des solutions de personnes forcément électorales, pour qu'on ait ceux qui ont envie de sont divisés. Donc ça, c'est un peu, je ne sais pas, on parlait un peu une corde bien, je crois. Il y a quand même une histoire qui fait qu'à partir du moment où on touche au pognon, on paye fort. Enfin, c'est difficile que vous voyez n'importe quel citoyen, vous voyez membre, ça ne touche pas trop cher en tête pour la défense, c'est vraiment au niveau France. Et l'autre question aussi, est-ce qu'il est vraiment important de continuer à dire chômeurs, précaires, machin, parce que moi personnellement, je ne connais pas beaucoup de chômeurs qui sont assez inquiets. Mais je me souviens quand on était à l'école, on disait, je suis encore en train de métier, c'est pas assez inquiétant, je vais chômer tout ça. Moi, ça me perturbe quand je suis chômeur. Parce qu'aujourd'hui, un chômeur, au-delà de sa petite subvention de survie, a toujours quand même, pour ça, quand une grosse partie de sa journée, à chercher à goûter, à chercher à en être un petit peu de son habitat ou de ses chers sortir. Et ça commence vraiment à percher qu'on continue à dire chômeur. C'est quand même une manière de justement mettre une certaine population de gens dans une certaine classe et de maintenir d'autres gens dans d'autres classes. Au
c'est peut-être un rond. Bah, globalement, je suis d'accord. Ouais, non, mais certains le traduisent par travailleur privé d'emploi, hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Bah, moi, je suis pas sensible. Enfin, c'est un peu comme être homosexuel et dire je suis gouine et je vous emmerde. C'est être noir et dire ben ton insulte de nègre, je la porte au effort. À un moment, être chômeur, c'est stigmatisé. C'est un mot qui a été péjoré. Il est stigmatisé, je le porte avec fierté, chômeuse. Voilà. Et non mais je comprends très bien. Mais par contre, je me dis, moi je c'est pas très. Enfin, oui, en effet, on est des actifs du moment où on est capable de travailler, on est dans l'âge où on est capable de travailler. On est des travailleurs sans emploi, c'est certain. On est des prolétaires, c'est-à-dire qu'on est, on n'a que notre force de travail comme à échanger pour gagner un peu de quoi survivre. Et donc on n'a pas les moyens de production, et c'est pour ça qu'on n'est pas des capitalistes. C'est ça en fait la définition du capital, c'est qu'ils ont les moyens de production, mais on les a pas, et donc on est des prolétaires. Et donc moi, accaparer le moyen de production, pour moi, c'est déjà autre chose que le capitalisme. Mais parce que alors si moi j'ai mes propres moyens de production, je suis pas obligée de vendre mon temps, ma force de travail pour me nourrir.
Sur la dette, pour rebondir sur ce qu'a dit Alain tout à l'heure, c'était juste pour signaler, pour ceux qui n'ont pas vu, il y a eu un documentaire à l'Odyssée sur la Grèce, et c'était très intéressant, et je me suis souvenu d'un truc qui est dit à un moment par un des types qu'on voit dans ce documentaire, puisque l'Europe, et dont l'Allemagne de Mme Merkel, n'est-ce pas, réclame un sacré paquet, n'est-ce pas, à la Grèce, et il y a des gens qui, dans le film, disaient qu'en réalité, si on prend en compte les dommages de guerre et les vols que les nazis ont fait quand ils ont occupé la Grèce dans les années 40, c'est plutôt l'Allemagne en particulier qui doit un paquet de fric, peut-être même plus grand que la dette, au moins partielle.
Oui, c'est une histoire qu'on ignore, j'ai appris tout ça très récemment, c'est très documenté. Il y a un centre de recherche universitaire allemand qui a consacré des années d'études à éplucher tous les documents administratifs, parce que le régime nazi avait ceci d'excellent, c'est qu'il a poursuivi la bonne tradition de l'administration prussienne. Donc, le moindre texte de détail, chèvre, vache, bouton qui a été pris au moindre paysan grec a été comptabilisé. Le moindre mètre de voie de chemin de fer qui a été détruit lorsque les Allemands se sont retirés de la Grèce a été mesuré. Donc on peut très exactement chiffrer tout ce que l'occupation nazie a coûté à la Grèce, à commencer par quelque chose qu'on ignore complètement, C'est-à-dire que les autorités d'occupation allemandes en Grèce ont soumis la population grecque à un emprunt obligatoire. Donc, qui n'a jamais été remboursé. Un petit calcul d'actualisation de tout ce que cela représente, et la chose a été soumise sur, mise sur la place publique, et a été contre-expertisée par différentes sources, ça représente à peu près 100 milliards de dollars au cours d'aujourd'hui. Intérêt non compris. Il avait été demandé et obtenu des autorités allemandes d'après-guerre que lorsque un traité de paix serait signé avec les différents États qui avaient participé à l'occupation de la Grèce, il y avait les Allemands, il y avait aussi les Italiens et les Croates, la dette soit remboursée. Les Italiens ont intégralement remboursé leur dette. Les Croates n'ont pas encore fait parce que l'État croate n'existait plus à l'époque. C'était l'État fantoche qui avait été créé une pièce par les nazis, qui a été ensuite repris de la Fédération yougoslave. Alors je ne sais pas si les Grecs ont repris les négociations avec l'actuel État croate. Les Allemands ont été brusquement dispensés de négocier en 1953 par les vainqueurs, c'est-à-dire les puissances, dont la France, qui a dispensé les autorités allemandes de remuneration. Cela dit, la signature, ça a été simplement suspendu, ça n'a pas été supprimé. Donc, lorsque une délégation du Parlement grec s'est présentée il y a 2 ans devant les autorités, devant le Bundestag, a demandé une entrevue au Bundestag, on leur a pris au nez. On a considéré que c'était une manœuvre dilatoire de la part de Grecs dont le caractère mensonger, corrompu, banditesque est notoirement connu, pour ne pas payer leur dette. On en est là. Je tiens à la disposition de qui veut l'adresse du site sur lequel tout cela est dûment référencé, et je dirais, vous verrez que c'est absolument pas quelque chose de... Cela dit, ça ne couvrirait pas la totalité de la dette grecque. Mais ça représente à peu près un bon tiers de cette...
C'est pas mal.
Ce qui est déjà...
C'est pas mal.
Ce qui est déjà...
Il y a quelqu'un derrière. Hein.
Ce que j'aime chez moi, c'est comment on fait du chantage à l'emploi sur l'agroalimentaire, donc il y a aussi la question de la culture. Voilà, comment on continue à entretenir un système globalement malsain pour la planète, pour la santé, etc. Et où nous-mêmes politiquement, moi je dépends d'un parti, je vais aux élections, je ne suis pas anarchiste, voilà, mais je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe là, je suis contente d'être là, par là. Donc je dis comme ça, voilà. Ouais. Et donc effectivement, on se retrouve confronté à cette difficulté de. Évidemment, on milite pour une reconversion écologique, etc. Et pour, bon, voilà, tout aussi. Et en même temps, dès qu'on touche à une entreprise qui a en plus repris les subsides publics pour faire du chantage aussi, comme quoi, enfin, les carrettes, et qui se barre quand même, donc il y met 2000 personnes à la porte, et là, on s'offusque en disant, ben non, il faut sauver l'emploi de l'agroalimentaire, etc. Et pendant ce temps-là, on a vidé les campagnes, on a refait les paysages, on a, voilà, et... Voilà, j'entends bien les différents niveaux de préoccupation, mais c'est bien des mal-êtres qui s'ajoutent à des mal-êtres, hein, du mal-être dans l'entreprise. Et on ne parle jamais autant de bien vivre ensemble, alors que c'est au moment où on parle autant de bien vivre ensemble qu'on est tous confrontés à des mal-êtres. Et dans ces mal-êtres, monsieur, on dit que ce sont les gens, on dit que c'est l'individu qui est responsable du mal-être. Et c'est ça que moi je trouve très choquant dans les mécanismes relationnels dont tu parles très très bien, qui est que, effectivement, la mobilisation n'est pas possible, puisque le principe même de communication est basé sur le fait que, en même temps, l'individu est libre, et en même temps, il n'a jamais été aussi asservi par le système, et qui fait que je suis forcément responsable de mon mal-être, et donc la seule question qui est de dire, il ne faut pas que j'ai l'air d'aller mal, mais c'est le système qui va mal. Et là-dessus, monsieur, voilà, je pense que c'est déjà important que vous nous donniez cette mise à distance. Et, mais comment les individus, à un moment donné, peuvent prendre cette distance pour dire les divorces, tout ça, ça fait partie de la même crise, quoi. Comment les crises publiques sont rentrées dans les familles, c'est partout. L'exemple de l'Espagne est extraordinaire pour ça. C'est-à-dire, on déplace les guerres dans la sphère privée. Et parce que ça touche au privé, parce que ça touche à l'intime, ça n'a pas de légitimité. Ton mal-être, ça n'a pas de légitimité parce que ça ne concerne que toi, sauf qu'on voit bien dans le système que ça ne concerne pas que toi. Et c'est ce que tu dis là avec beaucoup de courage. Et là, je ne comprends pas pour comment on n'est pas capable, nous, politiques, je parle des politiques, on parle du logement. Mais le problème du logement, il est bien lié au problème de l'éclatement de la cellule familiale, il est bien lié à des tas de problèmes. Si on parle de l'étalement des villes urbaines, etc., etc., il y a aussi ces problèmes-là qui sont pris en compte. Et sauf que le coût le sociétal, il n'est pas pris humainement, il n'est pas pris financièrement, et on dit, bah, ça ne nous appartient pas. Sauf qu'on est dans la gestion des conséquences d'un système qui précarise l'éducation, qui précarise plein de choses. Bah, bref, désolé, je suis partie de l'agriculture, je fais trop loin.
Pourquoi y a-t-il cette faible mobilisation? J'ai aussi posé la question, assez souvent d'ailleurs, et la première des réponses qui a été faite, c'est que la personne a peur de venir à la manifestation, dans le sens où elle se ferait voir, elle se ferait voir, repérer par éventuellement son chef, son patron, etc., et craindrait pour sa place, puisque souvent, comme les entreprises ne sont pas très en bonne santé, ceux qui seraient vus dans les manifestations seraient les premiers à être éjectés, puisqu'ils seraient des contestataires, pas satisfaits de leur sort. Donc c'est souvent qu'on arrive à se la jouer perso, malheureusement, et ça a été un peu soulevé tout à l'heure, alors que ce serait plutôt la nécessité de se regrouper qui ferait un impact plus important. Alors, on a aussi, je demande aussi aux passants, pourquoi vous n'allez pas rejoindre cette manifestation que vous voyez là, qui défend des droits, qui défend des gens, que ce soit aussi bien pour de l'écologie, que ce soit pour des entreprises. Et ils me disent, mais ça ne me sert à rien. Alors c'est souvent la réponse que les gens me font, ça ne me sert à rien. Mais alors je me suis demandé pourquoi. La conclusion à laquelle j'ai abouti, c'est qu'on est dans un système de bipartisme. Si vous allez demander quelque chose au gouvernement, de toutes les façons, ils s'en foutent, parce qu'ils sont là pour une durée, et après c'est les autres, des fois. Donc ils s'échangent la balle. Maintenant, c'est très intéressant ce mouvement, en fait cette espèce de bipartisme, parce que pour les lobbies, qui donc jouent leur intérêt à eux, au détriment de l'intérêt collectif, il suffit d'acheter avec une filiale A, le parti A, et une filiale B, par exemple le parti en face. Ça fait que eux, ils injectent là et là, donc dans tous les cas, ils vont pouvoir avoir leurs intérêts qui sont défendus. Et le problème, c'est qu'on est effectivement dans un système de lobby, et non pas dans un système collectif où les personnes, vous tous ici, n'avons pas le droit à la parole. Vous pouvez toujours demander à faire et à voir quelque chose, vous ne l'aurez pas, parce que vos représentants parlementaires font ce qu'ils veulent. Vous les élisez, mais ils font ce qu'ils veulent. Donc c'est un problème que j'ai trouvé au niveau qui est dans la démocratie. Et là, je reviens à ce que font les indignados, donc c'est la structure horizontale. En fait, quand on parle de solution, puisque c'est ce que vous voulez évoquer, la solution à laquelle moi j'aboutis, ce serait de répandre un virus qui est le virus de la démocratie. Et j'étudie donc les villages qui sont en démocratie participative pour pouvoir trouver les recettes de cuisine, à savoir comment ça fonctionne. Et ça détruit totalement le lobby, puisque la décision est au collectif. On agit dans ce village dans le sens de l'intérêt collectif. Alors, tout à l'heure, on parlait justement de l'individu et du collectif. Je dis que l'individu va toujours avoir tendance, non pas forcément à être égoïste, mais à penser à lui d'abord. Si maintenant il s'inscrit dans un cadre qui est celui d'une famille à laquelle il pense appartenir, eh bien, il va jouer dans l'intérêt collectif. Et dans les villages que je visite, dont notamment un qui est dans le Doubs, c'est incroyable tout ce qu'ils ont développé en infrastructure, et chacun participe à la vie du village. Donc l'horizontalité, c'est déjà un bon point, je pense, et surtout la démocratie où chacun s'investit. Et donc les gens, au lieu d'être dans un système mécanique, ils sont dans un système organique, c'est-à-dire dans le mécanique, on attend que tout vienne par la centralisation. Or, c'est le contraire qu'il faut attendre, c'est-à-dire que chacun fait ce qu'il peut là où il est, donc en s'organisant avec son voisin pour et participer à des mouvements ou participer à du nettoyage du village ou à du développement d'infrastructures, chacun mettant la main à la pâte chaque fois. Et ça fait qu'on a aussi, au niveau budget, des budgets qui peuvent être beaucoup plus bas au niveau des fonctionnements, donc des taxes aussi plus basses et des gens qui disposent de plus de pouvoir d'achat. Donc moi, ma solution, ce serait répondre à la démocratie. En plus, c'est légal.
L'exemple des démocraties participatives dans certaines communes, c'est effectivement très intéressant de voir ce que ça peut apporter, puis de voir aussi les limites que ça peut avoir. Je cite toujours l'exemple d'une commune en région parisienne qui s'appelle Morsan, où la mairie PCF, si je me rappelle bien, avait décidé de mettre en place un système participatif avec des conseils de quartier, avec un certain budget librement attribué, où les habitants pouvaient décider ce qu'ils en faisaient. Et dès lors que ce système a dû être étendu, le projet de l'étendre à l'ensemble du budget municipal, ça a tout simplement été interdit par la loi. Tout simplement. Donc la première limite, c'est la loi. La deuxième limite, c'est qu'on s'est rendu compte que ce système qui a fonctionné pendant plus de 12 ans s'appuyait sur la participation en réalité d'une à peu près 10% de la population. À la limite, le chiffre n'est pas très important, mais c'est surtout que c'est comme par hasard les 10% de la population qui avaient le plus les moyens de s'investir dans ces concepts. Et quand je parle de moyens, je ne parle pas seulement de moyens financiers, mais je parle aussi d'une certaine culture, d'une certaine culture politique, je veux dire, d'habitude, etc. Alors, effectivement, c'est des choses qui sont très intéressantes, mais on voit aussi quelles sont les résistances qu'on peut rencontrer dans ces cas-là, et ce sur quoi il faut agir. Je pense que les cultures politiques ou les habitudes de vie, tout ce genre de choses, ça fait aussi partie de ce qui a été détruit, et ça fait aussi partie de ce qui est absolument nécessaire de reconstruire.
Politique, alors je ne le cache pas, comme l'a dit madame tout à l'heure, ce qui ne m'empêche pas d'être aussi intéressé par les discussions horizontales. Il y a une chose dont je suis convaincu, c'est qu'il n'y a aucune contradiction entre la mobilisation horizontale et la mobilisation, comme vous dites, verticale, moi je dis la mobilisation citoyenne. Si les députés que nous avons élus, ou que nous n'avons pas élus, parce que nous sommes quand même tout de même, quand je mets le « nous », c'est le « nous » collectif, nous sommes très nombreux à être abstentionnistes, si ces députés ne nous conviennent pas, eh bien, on peut en élire d'autres. Nous avons le droit, encore aujourd'hui, nous pouvons en élire d'autres. Ça dépend de la volonté de chaque individu. Primo, d'aller voter. Segundo, avant d'aller voter, de regarder un peu quand même s'il y a un programme. Or, c'est vrai que les programmes ne sont plus très lus, puisqu'on est dans la communication politique, mais il y a peut-être des programmes qui, peut-être, promettent autre chose. Maintenant, si ensuite les promesses ne sont pas tenues, il n'a pas... Ah oui, mais ça... Il faut d'abord essayer. Ben oui, il y a peut-être d'autres formations politiques qui, jusqu'à présent, ne se sont pas encore totalement compromises dans l'exercice d'un pouvoir sans tenir compte de l'avis des citoyens. Donc, le problème, c'est que l'abstentionnisme grimpant, eh bien, les élus sont devenus des élus professionnels. Le recrutement du personnel politique s'est totalement professionnalisé en passant notamment par les grandes écoles qui légitiment la compétence politique. Et les citoyens, eh bien, petit à petit, ont déserté ce terrain de la démocratie élective, qui n'est pas forcément en contradiction avec la démocratie participative. Et c'est bien là-dessus, comme j'entendais dire très rapidement quelqu'un devant moi, il disait, ah oui, pendant ce temps-là, le capital, les grands capitalistes se frottent les mains, amusez-vous bien dans votre petite cour, et nous, on gère les intérêts mondiaux. Parce que, comme vous l'avez dit vous-même à la tribune, ce qui bloque toute extension de la démocratie horizontale et participative, c'est la loi. Or, dans un régime électif, que vous l'appeliez non démocratique ou démocratique, ça m'est complètement égal, mais dans un régime électif, qui fait la loi? Ce sont les députés. Et si vous n'élisez pas les députés qui vont pouvoir voter les lois, élaborer les lois qui iront dans le sens de l'intérêt de la population totale, eh bien nous n'avons qu'à nous en prendre qu'à nous-mêmes. Donc, au moment des élections, c'est peut-être là aussi qu'il faut se mobiliser. J'ai dit aussi, je n'ai pas dit que. Et là, nous avons tous individuellement une responsabilité. Et c'est pour ça que je disais dès le début, il n'y a pas de contradiction entre la mobilisation horizontale et la mobilisation politique. Merci.